6 avril 1994, la mort des présidents du Burundi et du Rwanda dans un accident d'avion déclenche plusieurs semaines de massacres de Tutsis. Le génocide rwandais a fait plus de 800 000 morts.
Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. 10 minutes pour tout comprendre d'un fait d'actualité. Bonjour Nicolas.
Bonjour Laurent.
Cette semaine, les 30 ans du génocide au Rwanda et la responsabilité de la France, on vous explique. Il y a donc 3 décennies, les Tutsis du Rwanda étaient massacrés à coups de machette dans le dernier génocide du XXe siècle, près 1 million de morts. La France aurait pu l'éviter, voilà ce que vient de déclarer Emmanuel Macron. 3 raisons d'écouter ce podcast avec toi, Nicolas.
Alors, c'est une déclaration importante d'Emmanuel Macron parce que ça n'avait jamais été dit aussi clairement. La France aurait pu éviter ce génocide. On va expliquer que c'est vrai. Que dans les premiers jours du génocide, on aurait effectivement sans doute pu arrêter les massacres. Et puis enfin, on va raconter pourquoi on ne l'a pas fait.
Expliquez-nous le monde.
Un podcast RMC.
Nicolas Poincaré.
Laurent Seigre.
La France aurait pu arrêter le génocide au Rwanda, c'est ce qu'Emmanuel Macron a reconnu à l'occasion du 30e anniversaire du début des massacres. Il lève là un tabou et c'est véritablement, tu le disais, une déclaration très importante, Nicolas.
Oui, parce qu'elle est simple et facile à comprendre. La France aurait pu arrêter le génocide au Rwanda. Ce n'est pas rien de dire ça, parce que dit autrement, ça signifie eh bien, qu'en 1994, la France aurait pu sauver environ 1 million de personnes d'une mort atroce. Et ce que dit Emmanuel Macron, c'est vrai, même si aucune autorité française ne l'avait jusqu'à présent dit aussi clairement. Le 6 avril 1994, ça fait donc exactement 30 ans, un avion qui transportait le président du Rwanda et celui du Burundi a été abattu par un missile alors qu'il approchait de l'aéroport de Kigali. Tous les passagers ont été tués et le corps du président rwandais est tombé dans son jardin, exactement sur sa Mercedes, parce qu'il se trouve que la résidence présidentielle se trouvait dans l'axe de la piste de l'aéroport. On n'a jamais su avec certitude qui avait abattu cet avion. Il y a eu beaucoup de débats. Mais ce qui est sûr, c'est que cet attentat a donné le signal pour lancer les massacres. Le soir même, la première ministre a été assassinée, de même que les 10 casques bleus belges qui assuraient sa protection, ces 10 soldats belges ont été coupés en morceaux les uns après les autres. Et très vite, des miliciens et des militaires ont commencé à établir des barrages dans Kigali, la capitale, arrêtant et tuant les Tutsis, les membres de l'ethnie minoritaire. Le génocide a donc commencé ce jour-là. Il a duré 100 jours jusqu'à la mi-juillet. 100 jours pour 1 million de morts, c'est-à-dire en moyenne 10 000 par jour. 10 000 par jour, ne cherchez pas. C'est absolument sans équivalent. La plupart des victimes ont été tuées à coups de machette ou de gourdin. Beaucoup ont aussi été assassinés avec des grenades qui étaient lancées dans les églises où les Tutsis s'étaient réfugiés.
Nicolas, tu étais sur place pour le service public à l'époque, il y a 30 ans donc, et tu as été témoin de scènes véritablement abominables.
Oui, notamment ce que je viens de raconter, les églises donc, où les Tutsis se réfugiaient, parce que dans les massacres précédents, les églises restaient un sanctuaire, ils n'étaient pas tués à l'intérieur. Là, ils l'ont été. À Nyamata, par exemple, tu es arrivé quelques jours après un massacre qui a coûté la vie à 20 000 personnes dans l'enceinte de cette église. C'était des montagnes de cadavres autour de l'église. C'est à peu près impossible à raconter. Hein. Ça, c'était dans tout le pays. Tout le monde participait aux tueries. Enfin, la majorité de la population Hutu participait aux tueries. On appelait ça aller au travail. Ça durait de 9h à 17h. C'était des horaires de bureau. On tuait à la machette. On abattait. On faisait des chasses à l'homme dans les marais. Enfin, c'est une des plus grandes catastrophes du XXe siècle.
Le journaliste Jean Hatzfeld a lui aussi couvert ce génocide. Il travaille à Libération. Il a ensuite publié de nombreux livres sur la question. Et pourtant, il ne s'explique toujours pas les ressorts du massacre.
La question essentielle de comment tout ça, comment on peut basculer de cette façon-là dans une forme de barbarie générale, collective, populaire, on n'a pas de réponse à cela. De la même façon que on n'a pas de réponse à la Shoah non plus, on n'a pas de... C'est-à-dire l'adhésion populaire est quelque chose d'inexplicable. On peut comprendre, on comprend l'extrémisme, on comprend les milices, on comprend tout cela, mais l'adhésion populaire qui a permis ces massacres, parce que c'est quand même des tueries populaires faites de voisin à voisin. Mmh. Il y a très peu de morts par balle, très peu de morts par miliciens. 80% des gens ont été tués à la machette par des gens d'à côté. Donc ça, comment on a pu basculer dans cette horreur-là, c'est quelque chose dont on n'a pas de réponse.
Jean Asfeld sur Public Sénat. Nicolas, revenons à la France. Comment aurait-elle pu empêcher ce terrible génocide ?
Oui, puisque c'est ce que dit Emmanuel Macron. Hein. Il dit on aurait pu l'empêcher. Alors effectivement, il aurait sans doute suffi de donner l'ordre à l'armée française de le faire. Dès le début du massacre, une opération militaire a été lancée par Paris pour venir en aide aux ressortissants français. Ça s'appelait l'opération Amaryllis, avec environ 500 soldats d'élite de l'infanterie de marine. En 3 ou 4 jours, ils ont réussi à évacuer tous les Français présents au Rwanda, c'est-à-dire environ 600 ressortissants, plus quelques centaines d'étrangers. Les militaires français sont allés chercher leurs compatriotes chez eux, un par un, y compris parfois en province. Et dans le même temps, les Belges ont fait la même chose avec leurs ressortissants et en évacuant aussi tous les Européens. En fait, pour dire les choses clairement, les Français et les Belges ont évacué les Blancs. Vous étiez blanc, vous montiez dans l'avion, vous étiez métis, ça se discutait, vous étiez noir, vous ne montiez pas dans l'avion. Voilà ce qui s'est passé pendant cette opération Amaryllis. Les Italiens étaient présents aussi. Et puis sur place, il y avait une opération de l'ONU, des casques bleus, des forces de l'ONU qui étaient commandées par un général canadien, le général Dallaire. Il y avait environ 2000 hommes, des Belges, donc des Sénégalais, des Tunisiens, des Bangladais. Et tous ces soldats, donc les casques bleus, plus les Français, plus les Italiens, eh bien tous ensemble, ils avaient largement les moyens d'intervenir, de faire cesser les massacres. Ils auraient pu imposer un couvre-feu, ils auraient pu tout simplement tirer sur les massacreurs, faire sauter les barrages. Quand je suis arrivé à Kigali le 9 avril, le principal barrage au sud de la ville était tenu par une dizaine de gamins alcoolisés qui m'ont braqué avec un arc et une flèche. Ils m'ont mis une flèche dans le cou et pendant près de 10 minutes, ils n'étaient pas armés d'autre chose que de cet arc rudimentaire et d'une machette. Les soldats français, les soldats belges, les soldats sénégalais étaient là. Il aurait suffi de tirer quelques rafales au-dessus de leur tête et ils disparaissaient. C'était possible dans les premières heures, dans les premiers jours, c'était possible d'arrêter les massacres, au moins à Kigali. Et s'ils n'avaient pas eu lieu à Kigali, ils n'auraient sans doute pas eu lieu dans le reste du pays.
Seulement, Nicolas, le problème, c'est que les militaires européens n'ont absolument pas reçu l'ordre d'arrêter le génocide.
Non, ils ont même reçu l'ordre exactement inverse, c'est-à-dire de ne pas intervenir. Les Belges, on l'a dit, ils venaient de perdre 10 hommes, ils étaient bouleversés. Il y avait des soldats belges qui étaient en larmes. Et très vite, eh bien, Bruxelles a pris la décision de retirer ces soldats. On les a vus déchirer avec leurs couteaux. Ils déchiraient leur béret bleu pour montrer qu'ils ne supportaient plus d'être sous la bannière de l'ONU. Et l'ONU, quelques temps après, a décidé de réduire ses soldats. Ils étaient 2300, ils sont devenus 270 seulement. Et c'est une décision sans doute une des plus honteuses de l'histoire des Nations Unies. Quant aux Français donc, de l'opération Amaryllis, eh bien, leurs ordres étaient clairs également. Il s'agissait d'évacuer les Français et les Européens. Et uniquement cela, les ordres étaient très clairs. Ne surtout pas se mêler au combat. Sauf que ce n'était pas des combats, c'était des massacres. Et il aurait fallu s'en mêler. Le lundi 11 avril, dans l'après-midi, j'étais présent lorsqu'un convoi a amené de très nombreux Français vers l'aéroport de Kigali. Et il a été bloqué sur la route très longuement parce que tout simplement, il y avait une tuerie en cours. Une foule de gens avec des machettes qui s'en prenaient à quelques femmes désarmées. Les soldats français se sont arrêtés à distance parce qu'ils ne pouvaient pas avancer. La route était bloquée par cette scène. Et ils ont tout simplement attendu que ce soit fini sans intervenir. Et dans le même temps, eh bien, le personnel de l'ambassade de France était évacué en laissant sur place les employés Tutsi de l'ambassade et du centre culturel. 19 d'entre eux ont été assassinés, dont la secrétaire personnelle de l'ambassadeur qui travaillait pour la France depuis 10 ans, qui a été sur place, laissée sur place et qui a été abandonnée. Au centre culturel, on a aussi abandonné un homme qui s'appelait Charles, qui travaillait depuis des années pour la France, qui était responsable du service vidéo. Et lorsque les soldats français sont venus évacuer les employés français, ils ont simplement laissé une bouteille d'eau à Charles en lui disant « Cache-toi dans le double plafond, mais désolé, on ne peut pas te prendre, on a des ordres, on n'emporte pas. »
C'est terrible.
Alors Charles a eu de la chance finalement. Les Belges sont arrivés un petit peu après et l'ont sauvé, mais les Français l'avaient clairement laissé derrière eux. C'était des jours terribles, ce début du génocide. Ça n'a pas souvent été raconté parce que Bah derrière, il y a eu 1 million de morts. Il y a eu énormément d'autres choses à raconter. Les fautes, les responsabilités de la France ont été soulignées depuis ces 30 dernières années. Souvent, il y a eu la commission Duclert récemment qui a parlé du rôle accablant qu'avait joué la France dans ce génocide. Mais on n'avait pas dit aussi clairement qu'on aurait pu l'arrêter dans les toutes premières heures. Et Emmanuel Macron donc l'a dit, et il va bientôt aller un petit peu plus loin en publiant sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il va dire que dans la phase d'extermination totale, au tout début donc, du génocide, la France avait les moyens d'agir, mais elle n'en a pas eu la volonté. C'est ce qu'a dit, et c'est ce que va dire Emmanuel Macron, et c'est un peu ce qu'on vient d'essayer de raconter.
C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On est sur toutes les plateformes et sur l'appli RMC. Nicolas, on te retrouve très vite.
À bientôt, Laurent.
Retrouvez Nicolas Poincaré tous les matins à 6h50 et 7h50 dans Apolline Matin sur RMC.